Et c'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un rapport parlementaire sur la lutte contre l'habitat indigne. C'est une information France Inter. Un an après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, un député fait de nouvelles recommandations. Simplification des procédures, sanctions contre les marchands de sommeil. C'est à découvrir dans un instant. La commission d'enquête parlementaire, le nouvel outil politique à la mode. Les députés espèrent en créer une de plus dans l'affaire de l'attaque terroriste de la préfecture de police de Paris. Analyse à suivre du chef du service politique d'Inter. À suivre également un nouveau suicide au sein de l'éducation nationale. Une étude sur l'espérance de vie. Les femmes vivent certes plus longtemps que les hommes, mais pas forcément en bonne santé. Et puis l'histoire de ce cinéma parisien associatif occupé illégalement par des militants.
Dans 20 minutes à 7h50, je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé est aujourd'hui le philosophe et essayiste Bernard-Henri Lévy.
France Inter.
Il y a un an, Sébastien, 8 personnes trouvaient la mort rue d'Aubagne en plein cœur de Marseille.
C'était le 5 novembre dernier, deux immeubles d'un quartier populaire qui s'effondraient. Dans la foulée, le gouvernement commandait un rapport parlementaire. Le rapport en question arrivera ce matin sur le bureau du Premier ministre. France Inter se l'est procuré en avant-première. Un chiffre à retenir, la France compterait entre 400 et 800 000 logements indignes. Et puis deux propositions principales du député rapporteur. Une police spéciale unique contre les marchands de sommeil et la création d'une sorte de contrôle technique du logement. Explication Claire Chaudière.
Du centre-ville de Marseille en décrépitude aux grandes copropriétés dégradées de région parisienne, en passant par la division pavillonnaire, le premier combat à mener est celui contre l'immobilisme des pouvoirs publics, insiste le député Guillaume Vuilletet.
Dans les témoignages qui m'ont été faits, il y avait parfois des agents publics qui renonçaient. Ils renoncent parce que souvent ils ne voient pas l'issue derrière.
Pour redonner confiance et simplifier les procédures face à des marchands de sommeil souvent très agiles. Le rapport propose donc une police spéciale unique par territoire qui remplacerait les 13 polices existantes. Autre chantier, la généralisation d'une nouvelle fiche d'habitabilité pour chaque logement.
On a réussi, il y a de ça 25 ans, à créer le contrôle technique pour les véhicules. 39 millions de véhicules. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose sur les logements.
Nouveaux documents plus complets que les diagnostics techniques existants et sans lesquels les propriétaires bailleurs ne pourraient pas toucher les APL de leur locataires. Accélération des travaux d'office ou des expropriations figure aussi dans cette feuille de route qui ne mentionne aucune enveloppe financière supplémentaire pour un objectif ambitieux, résorber l'habitat indigne en France en moins d'une décennie.
Le rapport parlementaire sur le logement indigne, exclusivité France Inter à retrouver sur franceinter.fr. Ajoutons les conclusions de ce rapport, cet autre rapport de la Fondation Abbé Pierre sur les habitants d'Île-de-France, les franciliens qui gagnent 26% de plus que les autres Français mais dont le loyer est 50% plus cher. Résultat, la proportion de ménages pauvres en Île-de-France a augmenté deux fois plus vite qu'ailleurs.
Il est 7h32 après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner sur le grill aujourd'hui.
Le ministre de l'Intérieur qui va passer trois fois devant les parlementaires en deux jours. Première audition ce matin à huis clos devant la délégation pour le renseignement. Suivi ce soir d'une audition publique, celle-là devant la commission des lois de l'Assemblée. Et enfin demain, autre audition publique également cette fois devant les sénateurs. Mais au-delà de ces premiers échanges, les députés veulent aller encore plus loin et demander la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête devenue ces dix dernières années, un moyen très prisé des députés et des sénateurs, non sans arrière-pensée politique. Et Elgoz.
Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Septembre 2018, Benalla au Sénat, moment de grâce pour la droite LR et plus largement pour toutes les oppositions. Dès qu'un scandale éclate, c'est le réflexe commission d'enquête, recherche de la vérité, mais aussi un contre-pouvoir qui se met en scène devant les caméras. Et depuis 10 ans, c'est l'inflation. Sous Nicolas Sarkozy, Assemblée et Sénat tout confondus, 8 commissions d'enquête. Sous François Hollande, 31, dont l'emblématique commission sur l'affaire Cahuzac.
Qu'est-ce qui peut permettre à notre commission de ne pas mettre en doute vos déclarations de ce jour?
Vous avez davantage la réponse que moi-même.
Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, déjà 16 commissions créées. Les Républicains imaginent la prochaine. semaine, celle sur l'attaque survenue à la préfecture de police de Paris, ce qui exaspère le patron des députés En Marche, Gilles Legendre.
Je dis que ça ne servira à rien, l'ensemble des faits sont couverts par l'enquête judiciaire.
Car c'est la règle, le Parlement ne doit pas marcher sur les plates-bandes de la justice. Alors, instrumentalisation, politisation, la constitutionnaliste Marianne Coandé est beaucoup moins sévère.
Même si c'est agaçant, même si c'est mal utilisé, je crois qu'il ne faut pas trop décrier ces commissions parce que fondamentalement, une des deux grandes missions du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif.
Un exécutif qui s'en passerait bien, personne n'est dupe, ces commissions, ça devient la mode, soupire un ministre qui s'inquiète des risques d'embouteillage dans le calendrier parlementaire.
Yael Gauze, à suivre aussi aujourd'hui la cérémonie d'hommage aux quatre policiers tués la semaine dernière par Michael Harpon à la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner remettra la Légion d'honneur à titre posthume ce matin à Aurélia, Anthony, Brice et Damien. Emmanuel Macron, lui, prononcera un discours à 11h devant tous les fonctionnaires de police de l'APP. Et puis sur le fond de l'affaire, rappelons que les enquêteurs ont découvert que l'assaillant avait gardé chez lui des clés USB contenant des vidéos de Daesh ainsi qu'un listing avec les coordonnées personnelles d'une dizaine de policiers de la préfecture. Une nouvelle affaire de suicide au sein de l'éducation nationale. Le suicide d'un professeur de 52 ans, juste après la rentrée, c'était le 9 septembre dernier. Il enseignait dans un lycée professionnel à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. C'est son fils qui a décidé, il y a quelques jours, de médiatiser l'affaire au vu des points communs avec le suicide de la directrice de l'école de Pantin, Christine Renon. Avant de mourir, ce professeur avait dénoncé, lui aussi dans une lettre, les pressions qu'il disait subir au sein de son établissement. Les précisions de Sonia Princet.
Laurent Gattier s'est suicidé à son domicile une semaine seulement après la rentrée. Pour son fils Sébastien, étudiant de 20 ans, les raisons de ce geste sont sans équivoque.
Le jour de sa mort, donc le lundi 9 septembre, il avait laissé une lettre en citant le nom de plusieurs personnes de sa hiérarchie, en disant que c'était du harcèlement.
Ce professeur s'occupait notamment du bureau des stages dans son lycée professionnel et il subissait des intimidations selon son fils.
Dès qu'il y avait un problème pour un stagiaire, on l'appelait tard le soir, on lui envoyait des mails avec beaucoup de pression, des menaces. Il y avait aussi des appels téléphoniques avec beaucoup d'insultes. Il y avait sa voiture qui était rayée. Moi, mon combat, c'est qu'il n'y ait aucun enfant qui vive ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et j'ai envie que ce soit aussi reconnu comme accident du travail. Voilà.
Pour l'instant, le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, Karim Ben Miloud, ne confirme pas le lien entre le suicide du professeur et ses conditions de travail. Mais il se dit profondément touché.
Nous n'avons pas d'éléments factuels qui permettent de déterminer cela. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons diligenté deux enquêtes. Une enquête du CHSCT au sein de l'établissement et également une enquête de l'inspection générale. J'ai moi-même saisi la semaine dernière pour essayer d'étudier les conditions de travail qui se déroulaient à l'intérieur de l'établissement, essayer de comprendre ce qui a pu se passer et pour nous, prévenir les risques psychosociaux et prévenir les situations qui peuvent conduire à ces gestes irréparables.
Le fils de l'enseignant a écrit au procureur de Clermont-Ferrand. Une enquête judiciaire devrait aussi être lancée.
Sonia Princet, que s'est-il passé dimanche soir dans les rues de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise? Un millier de personnes se sont rassemblées hier pour réclamer la vérité sur les circonstances du décès d'un jeune homme, Ibrahima, 23 ans, mort dans un accident de moto survenu à proximité d'une intervention de police. Sa famille a annoncé vouloir déposer plainte contre X pour homicide involontaire. C'est à Villiers-le-Bel, je vous le rappelle, que deux adolescents à moto étaient morts en 2007, provoquant à l'époque de graves émeutes.
Les femmes, Sébastien, vivent toujours plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé.
La direction de la statistique publie de nouveaux chiffres sur l'espérance de vie, mais l'espérance de vie sans incapacité. On y apprend qu'on vit de plus en plus vieux, rien de neuf, mais pas forcément en meilleur état. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui vivent en moyenne 5 ans de plus que les hommes, mais sans pouvoir pleinement en profiter, Véronique Julia.
En France, l'espérance de vie des femmes à la naissance s'établit en 2018 à 85,3 ans contre 79,4 ans pour les hommes. En l'espace de 10 ans, c'est plus d'une année de vie gagnée chez les femmes et près de 2 ans chez les hommes. Maintenant, projetons-nous à 65 ans. Pour ceux qui ont pu atteindre cet âge, deux critères. Les années qu'ils peuvent espérer vivre, encore, 23 ans chez les femmes, 19 ans chez les hommes, et les années qui leur restent en bonne santé, 11 ans chez les femmes, 10 ans chez les hommes. Là encore, c'est mieux qu'il y a 10 ans. Les courbes évoluent toutes dans le bon sens. Quand on a atteint 65 ans, on peut donc espérer vivre une bonne dizaine d'années en forme, sans être limité dans ses activités quotidiennes, sans perte d'audition, sans problème moteur ou cognitif. Mais les femmes, qui vivent finalement en moyenne 5 ans de plus que les hommes, vont donc passer pas loin de ces 5 années diminuées. Leur avantage d'espérance de vie avis n'est donc pas très qualitatif. Il peut poser question d'ailleurs, car si les femmes françaises sont parmi celles qui vivent les plus vieilles en Europe, juste derrière les Espagnoles, elles ne se situent que dans la moyenne européenne pour l'espérance de vie en bonne santé.
C'est le fleuron de l'aéronautique française, le Rafale. Eh bien, l'Inde prend livraison aujourd'hui officiellement du premier des 36 Rafales commandés en septembre 2016 à la France.
Et on termine avec ce petit cinéma de quartier qui fait de la résistance.
Le cinéma La Clé à Paris, en plein cœur du quartier latin. Il a fermé au printemps 2018, fermé par son propriétaire qui ne le jugeait pas assez rentable. Mais ce cinéma est un peu une institution créée après mai 1968. Il a aujourd'hui rouvert ses portes, mais illégalement. Il est occupé en fait depuis 15 jours par d'anciens salariés et un collectif d'artistes qui refusent de voir fermer ce lieu alternatif unique à Paris, Julie Pietri.
Donc là, c'est ma couchette.
Depuis sa réouverture, le cinéma La Clé a par endroit des aires de dortoir. Des matelas avec sacs de couchage sont posés dans ses recoins. Derek est un ancien salarié.
Comme un volcan qui était éteint, là, on le ranime, on veut qu'il soit en activité.
Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce cinéma, qui ne se passe pas ailleurs ?
Prix plus abordable, des films d'exploitation qui restent plus longtemps en salle pour laisser la chance aux bouche à oreille de découvrir des films plutôt d'auteurs. C'est des étudiants avec leur festival, c'est des festivals internationaux. Il y a des petites associations qui ne peuvent pas se permettre de louer la salle ailleurs. Même si on a les meilleures intentions du monde, il y a quand même l'épée Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi.
Sur la façade, des messages engagés comme « Ici, occupation citoyenne et pacifique » ont remplacé les traditionnelles affiches de films. Les grilles du cinéma sont fermées, sauf le soir, puisqu'un film est quotidiennement projeté. Eymout, habitante du quartier, soutien indéfectible du cinéma.
Moi, j'aime pas du tout aller dans un cinéma où je passe devant des stands de pop-corn, où je dois carrément traverser des centres commerciaux. Pour moi, un moment culturel, c'est quelque chose de très intime. Et ici, on a cette intimité qu'on peut partager avec les gens.
Les occupants qui n'ont pas les moyens de racheter le lieu promettent de quitter le site dès qu'ils auront l'assurance qu'il restera bien cinéma associatif.
Jolie Pietri. On termine avec ces lettres de Marcel Proust mise aux enchères en début de semaine. On en avait parlé ici sur Inter, Nicolas. Eh bien, ces 16 lettres écrites entre 1913 et 1916, estimées entre 200 et 300 000 euros, n'ont pas trouvé preneur.
Merci Sébastien Logeni. À suivre la politique.